L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous allons continuer ce que nous avons entamé l'émission précédente pour mieux méditer et saisir les différents charismes de l'homme, l'émergence, je dirais, charismatique de l'homme dans ce qu'il est et toute la pédagogie de Dieu vis-à-vis des hommes au travers de ces différentes figures. Nous pouvons évoquer le texte de Matthieu au chapitre 8 où il est dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Voilà. Et puis, et ce que je dis Jésus, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux.
Voilà,
donc vraiment ces figures charismatiques nous accompagnent et sont pleinement associées au règne du Christ.
Ouais, nous avons parlé des patriarches que tu viens de citer justement, qui sont ceux qui ont donné naissance au peuple. Maintenant nous allons aborder quelques autres figures qui sont évidemment bien connues, et la première étant celle de Moïse.
Voilà, alors Moïse qui est un combattant, qui est fougueux, parfois même colérique, mais il est surtout profondément mystique, spirituel, et il saisit vraiment l'appel à la libération.
Voilà, donc c'est lui qui évidemment a emmené le peuple, vous le savez, dans cette grande épopée du désert pour quitter l'Égypte, quitter les pharaons, quitter l'esclavage. Donc c'est évidemment le premier libérateur du peuple, et il lui est donné une grâce extraordinaire qui est de contempler le buisson ardent qui brûle sans se consumer, qui est pour nous chrétiens aussi la préfiguration de la Vierge Marie qui portera en son sein le Christ sans se consumer. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, Dieu était considéré comme tellement grand que celui qui allait le voir en mourrait, disparaîtrait, serait consumé. Et voilà que Moïse fait l'expérience, encore une fois, après Jacob, de la miséricorde qui est capable de s'adapter à l'homme pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu.
Alors c'est un homme extraordinaire, très très complet. Il est à la fois, c'est un homme visionnaire par rapport à la libération. C'est l'homme aussi de la loi qui va recevoir le décalogue. C'est un homme profondément d'intercession. Il est extrêmement complet dans ses différents charismes.
Il est extrêmement complet, il fait énormément de choses pour le peuple. La seule chose qui lui manque, c'est peut-être le côté un peu pasteur, si je puis dire. C'est un visionnaire, mais il lui faut un pasteur à ses côtés. Et grâce à Dieu, c'est la figure d'Aaron, qu'on connaît moins, mais qui est aussi très importante.
Alors parle-nous justement un peu d'Aaron.
Donc Aaron, c'est le frère de Moïse qui va aussi dans cette traversée du désert. C'est lui qui va organiser, qui va être le leader d'hommes, si je puis dire, le pasteur, qui va gérer le peuple, gérer les tensions, assumer en fait ce lien entre l'homme visionnaire et puis la réalité concrète des choses. Et ça, on voit très bien dans la masculinité. Autant il y a des hommes qui ont cette capacité à être, si je puis dire, des gestionnaires, des managers, des leaders, des pasteurs, autant il y en a qui ont plutôt une capacité de visionnaire, de prophète. Et les deux se complètent bien, mais ne sont pas forcément dans la même personne.
Et on le voit bien d'ailleurs, par exemple, dans les différentes l'histoire de l'Église, dans les grands ordres monastiques ou les grandes
les
communautés,
etc., c'est pareil.
Etc. Mais on va le retrouver aussi au niveau de la politique. Il y en a qui vont présider, qui vont donner la vision, etc. Il y en a qui vont gouverner.
Voilà.
Qui peut mettre en musique cette vision, etc. Et c'est pas l'un est mieux que l'autre, c'est que l'un a absolument besoin de l'autre.
Voilà, ce sont deux charismes masculins qui ont besoin évidemment de s'appuyer l'un sur l'autre.
Parle-nous de Josué.
Alors Josué, son nom, ça veut dire Dieu sauve. Hein.
Voilà, c'est le fils de Moïse.
Voilà, ça va donner après plus tard le fameux Yeshua, hein, donc Jésus. Et Josué fait entrer le peuple dans la terre promise parce que Moïse, n'a pas pu rentrer parce qu'il avait douté de Dieu. Il avait frappé le rocher deux fois pour faire jaillir de l'eau alors qu'une seule fois aurait suffi. Donc symboliquement, il s'est arrêté aux portes de la terre promise et c'est Josué qui rentre. C'est Josué qui rentre dans la terre promise comme nous espérons tous derrière le Christ rentrer dans la terre, la Jérusalem céleste, au ciel.
Voilà, alors on avance. Parle-nous de David, le grand roi David.
Alors David, c'est l'ancêtre du Messie que peut-être beaucoup connaissent. C'est l'homme qui, je dirais, très attachant parce qu'il est vraiment fait de pâte humaine. Donc ce David, il lui arrive des tas de choses et il est notamment un fougueux passionné. Et il tombe évidemment en face de Goliath dans ce fameux combat où par rapport à cet énorme géant qui lui fait face avec une petite fronde, il va l'abattre. Et donc c'est l'homme qui est capable par sa ruse et par son côté avisé de détourner les forces du mal et de...
Il est stratège, voilà. il est tacticien, voilà. Et c'est là où il préfigure aussi ça. Salomon, malheureusement qu'on n'abordera pas au niveau de la sagesse, hein, mais voilà, il est très avisé et il va être la sagesse du gouvernant, du stratège, du chef de guerre.
Voilà. Et puis, bien sûr, c'est aussi David, le chantre, hein, celui qui a chanté, dansé devant l'arche,
c'est
celui qui a écrit des psaumes merveilleux. Enfin, bon, voilà, c'est l'homme capable de...
Complètement entier, donner à son Dieu, qui peut chanter, danser devant l'arche.
Voilà, et puis avec une candeur d'enfant aussi, une espèce de côté extrêmement naturel, extrêmement simple. Et ça, c'est vrai que c'est très touchant dans la masculinité, ce côté enfant, on est capable de rire parfois de choses très simples, de s'émerveiller, voilà. C'est un des traits de la masculinité qui est très touchante et qu'on voit incarné là par David.
Mais ce travers, le péché, la face plutôt sombre de ce type de caractère, c'est son côté aussi passionné qui va jusqu'à lui faire usurper la femme d'un autre et envoyer au casse-pipe et se faire tuer le mari de la femme qu'il convoite.
Voilà, donc le pauvre mari de Bersheba est parti, si je puis dire, à l'abattoir pour qu'il puisse récupérer sa femme. Et quand il a été quelque part, il a compris que ce n'était pas dans la volonté de Dieu et qu'il a été puni, il est rentré dans un état de repentir
profond.
Il a été...
Il a pleuré amèrement sur son péché, etc. Il a vraiment...
Il s'est tellement repenti que la miséricorde de Dieu a été à nouveau donnée et que sa femme a donné naissance à Salomon, qui était donc le modèle de sagesse et de discernement dont les générations ont parlé.
Voilà, c'est l'homme qui reconnaît qu'il est complètement transporté à des moments et habité par ses passions, mais qui sait s'humilier et redresser son comportement par toute une démarche de conversion. Voilà, c'est une figure vraiment intéressante dans cette démarche entière, à la fois dans la vie, mais aussi dans la vie spirituelle.
Absolument. Et d'ailleurs, on va trouver aussi derrière lui toute une série d'hommes qui ont aussi cette capacité à voir les événements et à les regarder sous le regard de Dieu.
Alors, parle-nous à ce moment-là du prophète Élie.
Qui défie
les faux prophètes
de Baal. Extraordinaire, il est là en train de se moquer des prophètes de Baal.
Il les ridiculise,
mais il a une foi absolument extraordinaire quand on pense qu'il est capable de solliciter le feu du ciel pour manifester la puissance de Dieu. Quelque part, il met Dieu au pied du mur, quoi. Incroyable.
Et à ce moment, quand il se moque des prophètes de Baal, mais je pense que vous priez pas assez. Allez-y. Enfin, vraiment, il les a complètement ridiculisé.
Ah oui,
la scène devait être extraordinaire.
Extraordinaire. C'est une page magnifique et on peut lire ça aussi avec les enfants parce que c'est tellement drôle.
C'est écroulant de rire.
Voilà. Et donc, Élie, c'est aussi quand même un priant d'abord. C'est le père du Carmel. C'est lui qui s'est retiré donc sur la montagne du Carmel pour intercéder. Et encore une fois, Il intercède pour la pluie, cette fameuse rosée qui va monter, c'est-à-dire toujours cette préfiguration de l'Esprit-Saint qui va couvrir Marie de son ombre.
Alors on peut avancer aussi avec Job. On va beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Je suis sûr que nombre d'auditeurs regrettent qu'on ne puisse approfondir chacune de ces figures. Mais il faudrait quasiment une série d'émissions qui soit consacrée rien qu'à toutes ces figures. Alors parlons justement de Job.
Alors Job le juste, c'est celui qui est typiquement la figure de l'innocent qui est soumis à la souffrance. Je pense que beaucoup d'hommes pourront se reconnaître aussi dans Job. Il travaille comme un fou, il s'en prend plein la figure, il a que des malheurs et malgré ça, il reste fidèle. Il est pour nous, chrétiens, la préfiguration du Christ souffrant, le serviteur souffrant. C'est-à-dire celui qui est capable de rester fidèle et de continuer à louer le Seigneur à l'intérieur, si je puis dire, de sa gadoue, quoi. Voilà.
Voilà. Et voilà comme il confesse, « Oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Mais maintenant, mes yeux ont vu. » Voilà. Donc, il traverse les épreuves. Mais au travers de ces épreuves, il accueille vraiment la révélation du Seigneur. C'est vraiment la figure de cet homme qui traverse avec foi les épreuves pour accueillir la bénédiction de Dieu. Et Job nous ouvre à ce grand, grand prophète très christique qu'est Isaïe. Et donc, nous en reparlons dans quelques instants. À tout de suite. Voici de retour pour aborder cette grande figure, Maud, cette grande figure de l'Ancien Testament qui est Isaïe, le grand prophète messianique.
Voilà, Isaïe qui est tellement visionnaire que ses textes sont cités souvent dans nos liturgies. Hein. Et il y a deux choses que je retiendrai chez lui. La première, c'est son ministère de consolation, de miséricorde. C'est un homme doux qui voit la détresse du peuple et qui apporte donc cette parole magnifique. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. C'est vraiment l'homme de la miséricorde. Et je trouve que c'est très touchant aussi, tous ces hommes qui ont cette capacité à s'attendrir sur la détresse pour la soulager.
Voilà, et puis c'est aussi un prophète qui va vraiment annoncer, peut-être comme aucun autre, vraiment tout le ministère de Jésus-Christ.
Voilà,
le Messie,
notamment,
qui vont annoncer le Messie.
Et notamment, il annonce cette fameuse phrase que nous lisons pendant les textes de l'Avent. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle va enfanter un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voici ce que Isaïe, pardon, disait il y a quand même des années et des années. Il a vu préfigurer cette naissance incroyable de Christ dans le sein d'une vierge.
Voilà. Et donc Isaïe incarne un peu ce charisme prophétique des hommes qui peuvent saisir les desseins du Seigneur. plus particulièrement parce qu'il accueille vraiment par sa prière, par l'écoute de la parole, les desseins du Seigneur.
Voilà, alors, il y a eu d'autres prophètes, des grands prophètes, mais on peut citer un particulièrement qui est Ézéchiel, avec ce texte magnifique sur les ossements desséchés. Je sais que c'est un texte que tu aimes particulièrement, Alex, où il voit quelque part figurer la résurrection.
Voilà, c'est le prophète qui saisit combien. Alors c'est un prophète d'un peuple qui est en exil à Babylone, et il saisit combien son peuple est dans l'histoire, dès qu'il le voit, tellement triste, quasiment mort, et vraiment il prophétise sur les ossements desséchés qui reprennent vie, reprennent chair, etc. Parce que c'est le peuple qui accueille la révélation, qui accueille le Messie. Et donc, il est vraiment là à dire, malgré la mort, malgré la détresse, malgré la souffrance, le Seigneur va envoyer son Messie et va réveiller ce peuple et en faire un peuple qui louera, qui bénira et qui accueillera cette révélation.
Une autre personnalité bien connue, c'est Daniel. Retenons simplement dans Daniel cet épisode où il est dans la fournaise avec ses compagnons et où il loue Dieu. Et cette louange est vraiment importante, et c'est vrai que l'homme a ce charisme aussi d'être le meneur de la louange. C'est lui qui doit aussi répondre à cet appel de rendre grâce à Dieu.
À temps et à contre-temps, je veux dire, il figure également les figures de martyrs qui vont à un moment nous édifie de manière extraordinaire, quand à des moments dans l'histoire de l'Église, nous avons ces saints qui vont braver avec, mais que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui devant leurs bourreaux ont une sérénité et une confiance en Dieu immense, et déjà ils sont sur terre, mais déjà ils voient le ciel.
Voilà, puis c'est aussi Daniel qui, grâce à ses interprétations des songes et sa sagesse, a notamment sauvé Suzanne, donc figure des martyrs de la foi, puisqu'elle était accusée à tort alors qu'elle n'était pas responsable.
De concupiscence, et justement voilà. Qui était accusée à tort à cause de deux hommes qui avaient justement un regard très concupiscent à voilà. Leur égard et qui la convoitaient.
Et Daniel a réussi à les confondre, donc c'est aussi cette figure, je dirais, de l'homme qui est capable d'utiliser les éléments de la réalité pour porter un regard de justice. Et je crois que c'est aussi particulièrement masculin, cette capacité d'avoir un recul sur les événements pour juger et apporter un discernement éclairé sur les choses.
Alors, dernière figure de l'Ancien Testament, Maud, parlons de Jonas.
Alors Jonas est bien connu pour son aventure dans le ventre de la baleine. Et rappelez-vous cette fameuse parole où Jésus parle de Jonas en disant « Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas ». Mais qu'est-ce que c'est ce fameux signe de Jonas ? Ben, ce signe de Jonas, c'est cet épisode où Jonas est demeuré pendant 3 jours et 3 nuits dans les entrailles du poisson avant qu'il ne soit rejeté.
Et c'est qui préfigure la mort du Christ qui resta dans les entrailles de la terre durant 3 jours.
Voilà.
Et voilà, et qui fit œuvre toute l'œuvre de libération justement dans le Sheol. Où l'œuvre des rédemptions s'est réalisée.
Voilà, donc de la même façon qu'il a été rejeté des entrailles du poisson, le Christ a été quelque part rejeté de son tombeau, et il est donc le signe de cette mort-résurrection, ce passage de la mort à la vie qui est proposé par cette expérience du salut.
Alors on passe à une autre figure, à une figure là aussi qui fait un peu le seuil entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est la figure de Jean-Baptiste, mais on y consacrera la prochaine émission avec Marie, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Donc passons à Joseph, le père de Jésus.
Joseph, le grand Joseph, alors ça c'est vraiment effectivement presque le grand oublié de l'évangile, puisqu'il est tellement discret qu'on en parle très très peu, mais il a un rôle énorme. C'est vraiment le juste qui écoute, le juste qui ne comprend pas, mais lui aussi, il a un songe et il se soumet. Et il obéit avec une promptitude absolument incroyable. À chaque fois que Joseph reçoit un appel de Dieu, il est dit dans la parole aussitôt. Aussitôt il se leva, aussitôt il partit, aussitôt il prit Marie chez lui. On sent qu'il y a une espèce de promptitude à obéir à Dieu qui est absolument
Il y a chez Joseph un côté Abraham. Alors bon, écoutez, la figure de Marie, etc., à des moments on se dit, Joseph, il est un peu pâle. Mais quand on voit comment s'opère, la grâce de Dieu en lui, effectivement, il est quelqu'un de profondément solide et profondément sensible au dessein de Dieu et aux appels de Dieu.
Voilà, c'est le rempart aussi pour qui est le gardien, c'est l'homme qui est capable de s'occuper de l'intendance de la Sainte Famille, hein. Il a aussi nourri à la sueur de son front la Sainte Famille, il les a emmenés évidemment sur les chemins en Égypte et tout, ça devait pas être très rigolo, enfin il devait quand même être sacrément inquiet. Il a vraiment été au service de la volonté de Dieu et je trouve extraordinaire justement à la fois sa docilité et à la fois à cause de son obéissance, c'est, on l'appelle dans la liturgie d'église, terreur des démons. Et que c'est lui qui nous protège. Et à cause aussi de cette figure de Joseph, les hommes ont cette responsabilité de protéger leur famille des démons et des attaques.
Ah, ce que j'aime aussi énormément chez Joseph, c'est qu'il était profondément humain. Il n'avait pas forcément des dispositions extraordinaires humainement. Le Seigneur, dans le songe, lui dit ne crains pas. Donc il devait être terrorisé par ces situations en disant, mais attendez, j'épouse une fiancée, et elle attend un enfant alors que j'ai pas habité avec elle, etc. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas. Et donc, au-delà de toute cette situation, sa propre situation personnelle, il a accueilli la grâce de Dieu qui l'a fait transcender complètement sa propre condition humaine et ses facultés humaines. Voilà. Allez, passons à une autre figure, Maud, cette figure de Pierre. Alors, Pierre qui est l'homme simple, voilà. 3, taillé d'un bloc. Alors, on adore le cardinal Barbarin, Prima de Gaulle, qui dit, moi j'adore Pierre, parce qu'il se fait constamment engueuler par Jésus. Il a un caractère de cochon, mais il se fait pétrir par le Seigneur.
Voilà, c'est la pierre d'angle de l'Église quand même, hein, celui qui est vraiment le ministre par excellence, puisque le Christ a construit son Église à partir de Pierre. C'est la figure du pasteur, du responsable. Et bien sûr, comme tu dis Alex, il est passé par l'étape de la maturation de sa foi, il est passé par cette épreuve du triple reniement, mais aussi de la repentance et du triple acte de foi. Il a redit son amour au Christ, sachant la blessure qu'il lui avait infligée en le reniant. Et je trouve que c'est vraiment ce charisme masculin qui sait revenir sur ses fautes, un peu comme on avait parlé de David, hein, mais qui, parce qu'il est revenu sur ses fautes et parce qu'il les a remis, le Christ va le bénir particulièrement et il a une capacité à enseigner, à célébrer, à prêcher, qui est magnifique.
Alors, autre figure très différente et très complémentaire de Pierre, c'est Jean, le disciple bien-aimé.
Voilà, alors
plutôt Jean, le contemplatif, le charisme contemplatif chez l'homme.
Contemplatif, voilà, c'est celui qui était penché sur la poitrine de Jésus pour écouter son cœur battre et son cœur battre d'amour pour les hommes. C'est vraiment le disciple bien-aimé, celui qui sait voir, qui est aussi l'auteur, non seulement de l'Évangile mais de l'Apocalypse. C'est vraiment l'homme visionnaire.
Et puis, finissons par Paul, qui est vraiment une figure d'homme particulièrement, je dirais, haute en couleur.
Voilà, et puis c'est l'aventurier, c'est l'explorateur, c'est celui qui n'a peur de rien et qui est pour nous, pour tous les hommes aussi, je pense, le signe de la masculinité dans son côté viril, fougueux, aventurier, complètement mis au service de l'Évangile et ça donne un résultat absolument extraordinaire.
Voilà, beaucoup trop rapidement, ces différentes figures symboliques de cette grâce et de ces charismes d'hommes que nous avons pu comme ça voir durant ces deux émissions. Donc nous prions et bénissons le Seigneur pour tous les hommes qui ont pu écouter ces émissions et nous demandons vraiment à l'Esprit du Seigneur de venir les combler leur cœur, combler leur ministère auprès de leur épouse, auprès de leurs enfants, dans leur travail et dans toute leur vie. Que le Seigneur nous conduise et nous bénisse. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.